Donner du sens à son travail, ça se construit. Alors, explorons ensemble comment repenser le monde de l'entreprise. Bienvenue sur Libère ta boîte, le podcast qui va faire de toi un dirigeant serein, efficace et heureux pour que ton business cartonne et que tes salariés soient engagés et ravis. Je suis Émilie Lebrun, dirigeante de l'agence WordPress Wooden It, aussi mentor et coach de dirigeants. Et j'ai lancé ce podcast pour faire bénéficier de mon expérience les entrepreneurs qui cherchent à explorer de nouveaux modèles d'entreprise. La boîte, c'est à la fois une entreprise et aussi un cercle trop restreint dans lequel on maintient parfois notre quotidien. Alors je veux aider chaque vendredi, seul ou avec des invités inspirants, à repenser notre approche du travail et à libérer nos idées en même temps que nos entreprises. Installe-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Kovan, merci de nous avoir rejoints pour cet épisode Libère ta boîte. Je suis ravie de t'accueillir. Je te connais depuis très longtemps, je pense que ça fait au moins 10 ans, non ?
Pas loin. Allez, un petit peu moins, nous vieillissons pas tant que ça.
Puis on s'est rencontrés dans un écosystème qui n'a absolument rien à voir avec le sujet du jour, puisqu'on s'est rencontrés dans la sphère WordPress. Et moi, je te connais effectivement dans cette sphère-là, je te connais en tant que coach business, en tant que consultant, et je sais que tu as aussi une autre casquette. Et c'est ce sujet-là vraiment qui m'intéressait d'aborder avec toi aujourd'hui, parce que je sais que tu es dans une association et qu'en plus dans cette association, tu as une vision, on va dire, pas du management parce qu'on est dans une association, mais de leadership, d'organisation qui est très moderne et dont j'avais très envie dont on discute aujourd'hui. Est-ce que tu peux déjà commencer peut-être par te présenter et puis nous raconter un petit peu l'association? Comment elle est arrivée là, comment toi tu es arrivé dedans et tout ça.
Yes, donc moi Kovan Lee, effectivement je suis depuis 7 ans maintenant consultant, coach, formateur sur toutes les problématiques de développement d'entreprise, donc commerce, positionnement, marketing, stratégie d'entreprise. J'ai cofondé un cabinet de conseil qui s'appelle Ekia maintenant, j'ai un associé. Donc Ekia Conseil, et il y a 7 ans, quand je me suis installé à Montauban, j'ai par rencontre adhéré à cette ONG. Alors c'est les enfants de l'AIR, on a fait un petit rebranding il y a quelques années, on se fait appeler EDA. Donc EDA c'est une ONG qui a été créée en 2000, donc on a 24 ans actuellement. L'histoire de départ, c'est une histoire d'un petit groupe de personnes qui a fait le Paris-Dakar et qui a croisé les Touaregs dans le Niger avec tout l'imaginaire et la fantasmagorie que ça a pu générer. Et ils ont dit, il faut qu'on trouve un moyen de revenir régulièrement. Et donc, ils ont créé cette association. Au départ, pour être très clair, c'était une association qu'on pouvait appeler d'association caritative. Donc, ils organisaient des convois, ils chargeaient des camions, ils récupéraient des vieux camions de l'armée qui chargeaient à Montauban, puisqu'on est dans le Tarn-et-Garonne, à côté de Toulouse. Et ils partaient en un mois, ils traversaient Marseille, la Libye et tout le désert pour aller jusqu'au Niger, puisque l'Aïr, c'est une montagne au Niger, en fait, à côté d'Agadez. En 2009, il s'est passé deux choses dans l'association. D'une, il y a eu une instabilité au Niger qui était extrêmement compliquée, donc ça devenait impossible d'envoyer du monde là-bas. Et de deux, il y a eu une vraie réflexion de fond aussi sur ce que faisait l'association. Parce que là, amener du matériel et le distribuer, on se fait du bien, nous, coopérants membres de l'association. À quel point on aide quand on fait ça, c'est une vraie question. Donc l'association a basculé et est passée vraiment en mode projet, donc en projet de développement, qui passe par un diagnostic partagé avec des interlocuteurs locaux, la création de la solution, du projet, de comment on va les aider, et le delivery de ce projet-là. On intervient donc maintenant plus au Niger du fait de la situation qui a été très compliquée. On est depuis 2011 installé en Guinée-Conakry, donc dans la région de la Haute-Guinée, qui est la plus à l'intérieur des terres, la plus loin de la capitale, la Haute-Guinée, dans les régions de Cancan et Sigiri. On intervient dans trois domaines, la santé, l'éducation, l'agriculture. Et dans notre mode de fonctionnement, on est 100% bénévole, on n'a pas de salariés dans l'association. On n'est plus la petite association du coin, puisque notre ONG, c'est à peu près 200 membres actifs par an, un budget de fonctionnement qui est de l'ordre de 400 000 euros. On mène des projets d'ampleur. Là, par exemple, on a un très gros projet sur les urgences médico-chirurgicales dans la région de la Haute-Guinée, qui est un projet national porté par le ministère de la Santé guinéenne, financé par Expertise France, qui dépend du ministère des Affaires étrangères français. Donc, c'est des projets très structurés. Voilà. Et alors, tu parlais de management. Alors, ce n'est pas un gros mot, parce que oui, on est dans le monde associatif. Oui, nous sommes tous bénévoles. Mais quand on décide d'adhérer à une ONG, on a des droits en tant que bénévole. On décide de consacrer le temps, l'énergie, la bonne volonté que l'on veut. Mais quand on décide d'être en mode projet avec des partenaires, comme nous avons en Guinée, on a aussi des devoirs. Et donc, moi, je suis rentré dans cet asso en 2016. Au départ, j'y suis rentré pendant une année sabbatique pour aller réparer des PC au fond d'un hangar le jeudi après-midi. Puis je me suis retrouvé à porter un projet, à rentrer au conseil d'administration, à rentrer au bureau comme responsable de la communication, puis vice-président il y a 3 ans, et il y a 1 an, j'ai été élu président de l'ONG. Voilà le parcours. Et cette notion de management, elle existe, parce qu'en fait, une équipe de bénévoles, il faut la fédérer. Et en plus du fait de mon métier de consultant en orga, en performance, où j'accompagne des dirigeants d'entreprise, des directeurs commerciaux, des directeurs marketing, c'est hyper intéressant de faire le parallèle, parce que honnêtement, je pense qu'il est beaucoup plus facile de manager des salariés que des bénévoles. Parce qu'à un moment, il n'y a pas un lien de subordination. Je suis président, mais je ne suis pas le patron. Et je suis un grand défenseur des organisations les plus horizontales possibles. Et clairement, EDA, c'est mon bac à sable de toutes ces pratiques-là que je souhaite développer. Et en disant, moi, en tant que président, je ne veux pas être indispensable dans les process de décision, dans comment l'association avance. Parce que, en plus du fait, le fonctionnement même de bénévole fait que personne ne doit être indispensable en tant qu'individu, même si c'est un peu une utopie, en vrai, faut se le dire. Mais parce que sinon, en fait, on crée une dépendance et un risque, parce que le fait que je sois bénévole fait que je peux partir du jour au lendemain. J'ai même pas la notion de préavis comme on a quand on est salarié, quand on est associé d'une boîte, ce genre de choses. C'est un jour, j'ai un coup de sang, je claque la porte, je suis plus là. On a une quarantaine, cinquantaine de personnes qui bossent vraiment régulièrement pour l'association. Le reste des gens, c'est des gens qui vont soit venir sur notre siège à côté de Montauban pour travailler, préparer tout ce qu'on fait sur place. On envoie un conteneur de 70 mètres cubes par an. Il faut préparer ça parce qu'on est dans un état de droit en Guinée. Donc, nous, on a un accord avec l'État guinéen, des autorisations de dédouanement. Donc, un conteneur, on ne remplit pas juste de ce dont on pense que c'est bien. Hein, il faut lister, il faut s'assurer que c'est les bons produits, que quand on envoie du consommable médical, il n'est pas périmé. Hein, ce n'est pas une décharge, l'Afrique. Hein. Contrairement à ce que certains industriels peuvent croire, ça pourrait faire un autre épisode de podcast complet là-dessus. Après, en termes de gouvernance, on a une association loi 1901, on a un fonctionnement assez classique, on a un conseil d'administration. Aujourd'hui, nous sommes 29 membres du CA. Et nous avons un bureau aussi, qui lui opère au quotidien l'association. Et là, on est 8 au bureau.
Et vous travaillez tous en parallèle de votre activité professionnelle. C'est vraiment que du bénévolat et que dans des fenêtres temps quand même assez limitées par rapport à votre charge de personne, enfin de votre disponibilité en fait.
Tout à fait. Alors, on a la chance, comme beaucoup d'associations, aujourd'hui, le monde associatif français, il ne vivrait pas s'il n'y avait pas les retraites françaises. Faut être très clair. Parce que qui sont les gens qui ont des compétences et du temps? Ben, ce sont les retraités. Donc, moi, j'ai beaucoup de retraités très impliqués dans l'association. Mais quand je dis très impliqués, c'est que Isa, qui est secrétaire du bureau et responsable du pôle éducation, je pense qu'elle fait 30 heures ou 35 heures par semaine pour EDA. D'accord? Moi, je fais partie de ceux qui sont encore en activité. Heureusement qu'il y a un collectif qui fonctionne, parce que bah, là, par exemple, depuis le début de l'année, j'ai un planning qui est extrêmement chargé. Je peux moins consacrer de temps que ce que je voudrais à l'ONG, mais ça tourne. Je n'handicape pas le fonctionnement de l'ONG.
Oui, c'est ce que tu disais. Toi, ton objectif, c'était de vraiment s'assurer que personne n'est indispensable et qu'en fait, il puisse avoir une sorte de backup ou au moins que chacun ait l'information pour que ça ne bloque personne si une personne n'est pas disponible le moment où vous avez besoin de ses compétences. Et pour tous les métiers, ça peut être peut-être, enfin peut-être que pour certains métiers, c'est peut-être plus facile que d'autres, vu ce que vous faites justement comme activité.
Alors oui, il y a des fonctions sur le terrain, les gens qui peuvent monter des projets, piloter des projets, etc., ça nécessite des compétences. C'est là qu'on a une dimension aussi professionnalisée, dans le sens où on a formé des équipes à la gestion de projets humanitaires. Comment on monte un projet, comment on le suit, comment on monte un budget, comment on le pilote, comment on va chercher des bailleurs de fonds. Parce qu'on a beau être bénévole, on a beau être une structure qui bosse beaucoup dans un mode très circulaire, dans le sens où on fait beaucoup de récupération de matériel, on achète peu, mais on a un modèle économique à défendre. Parce que le projet urgence dont je te parle, on a besoin quand même d'espèces tonnantes et trébuchantes, hein, et on a besoin de 300 000 euros sur 3 ans. Donc c'est pas anodin. Et que si on en avait eu 700, on avait de quoi faire. Donc il faut préserver tout ça. Et typiquement, le fait de ne pas avoir de dépendance avec les personnes, ça passe déjà par la gouvernance. Moi, je suis président. Statutairement, j'ai Denise, une ancienne assistante dentaire, qui est donc à la retraite, qui a été élue vice-présidente. Mais dans le fonctionnement, on est en coprésidence. C'est-à-dire que moi, je ne vais jamais valider une décision sans en avoir discuté avec elle. Et de toute manière, je n'impose jamais rien aux membres sans passer par le bureau pour ce qui est très opérationnel. Dès que c'est plus stratégique, plus engageant pour l'ONG, ça passe systématiquement par une validation du conseil d'administration.
Quand tu as rejoint le bureau en tant que président, tu t'es dit, voilà, moi, je vais faire du mode collaboratif. Alors que toi, comment, on connaît plein d'associations où ça ne se passe pas du tout comme ça et où le président est plus en mode, pour reprendre le terme, imposer ses idées et vouloir un peu mener son association un peu comme il le ferait, je pense, son entreprise. Pourquoi tu t'es dit que tu ne voulais pas, pratiquer justement la présidence comme ça? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, OK, c'est important pour moi, c'est important pour moi que chacun ait le droit à la parole, que ce soit effectivement en mode collaboratif, que je n'impose pas les choses et que j'amène un peu tout le monde avec moi sur ce projet. Est-ce que c'est par rapport au fait que c'est une ONG ou est-ce que c'est par rapport à toi, ta vision, je veux dire, du monde de l'entreprise, du monde du management qui a inspiré ça?
Alors, il y a les deux, en fait, dans la réponse. La première réponse, c'était aussi ma vision personnelle. Quand je suis passé de vice-président à président, donc quand j'étais vice-président, j'étais en coprésidence avec donc, ma présidente, Marie-Hélène, à l'époque, qui, elle, à 74 ans, a pris sa retraite de sa retraite. Hein. Elle a décidé de se reposer un peu. Et quand j'ai dit « Ok, je suis partant pour la présidence », j'avais une équation à résoudre. C'est que j'ai beaucoup de boulot. Je souhaite avoir une vie privée aussi. Je ne peux pas me laisser manger par ce que demande l'ONG. Parce qu'une ONG de 200 personnes, de 400 000 euros de budget, qui envoie 100 personnes au fin fond de l'Afrique de l'Ouest par an, c'est du taf. Il y a plein de choses à faire, administratives, relationnelles, fonctionnelles, etc. Donc, moi, j'ai accepté de prendre la présidence en me disant je ne peux pas être le point bloquant du fonctionnement de l'association. Et je n'ai pas envie de l'être, j'ai besoin de me préserver aussi en tant que personne. L'autre point, c'est que à la différence d'autres associations, moi, je ne suis pas président, je ne suis pas fondateur de l'association. Cette association, elle a 24 ans. Moi, ça fait moins de 10 ans que je suis là. Je suis un héritier, en fait, de ce qui a été fait auparavant, avant moi. Et du coup, je n'ai pas de raison d'imposer une vision. J'ai encore des membres fondateurs qui sont membres de l'association du CA, et même dans le bureau, des gens qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que moi. Donc, je n'ai aucune légitimité, en tout cas, c'est ma vision, à dire c'est comme ça qu'il faut faire. La seule chose que j'impose aujourd'hui, c'est le fonctionnement collectif. En me disant, quand quelqu'un vient me voir en me disant « Tiens, je t'appelle parce que tu es le président, mais je pense qu'on pourrait faire ça. » Ok, on a créé une structure, une organisation. Je me dis « Est-ce que tu en as discuté avec le collège du pôle santé, avec la coordination du pôle éducation ? Est-ce que ça, il faudrait qu'on en discute au prochain CA ?» parce que c'est engageant pour l'asso, ce genre de choses. Mais moi, je suis un redirecteur, en fait. Si je fais un parallèle avec notre monde du web, moi, je suis un plugin de redirection 301.
Ouais, tu as vraiment ce rôle un peu de redispatch des sujets, d'assurer en fait qu'il y a vraiment un maximum de jeux d'équipe, quel que soit le point qui arrive en fait.
Exactement. Et c'est particulièrement important dans un fonctionnement d'une ONG 100% bénévole, parce qu'il faut donner envie aux gens de s'investir avec nous. Il faut donner du grain à moudre, que les gens aient des choses à faire. Je ne connais personne qui s'engage durablement dans une asso comme la nôtre juste pour dire « j'y suis ». D'accord ? Si à un moment, on ne se sent pas utile, on va ailleurs.
Oui, c'est le sujet tout à l'heure de, tu sais, comment on arrive à fédérer en fait des bénévoles, parce que déjà, fédérer une équipe de salariés, c'est déjà pas facile. Et j'ai envie de dire, les gens restent là parce qu'ils sont payés, ils n'ont pas de choix, entre guillemets. Et voilà. Alors que là, comme tu disais, bénévole, du jour au lendemain, si tu as envie, si tu en as marre, si tu as un coup de sang, tu peux claquer la porte. Donc, effectivement, il va y avoir l'envie personnelle de contribuer, je pense, à une ONG. Mais ça peut s'affaiblir dans la durée. On peut peut-être se démotiver. Donc, comment pour toi, quelle est pour toi la. Est-ce qu'il y a une recette de comment tu arrives à fédérer les gens sur la durée pour, dans une association en fait, est-ce qu'il y a une recette magique, est-ce que c'est une remise en question permanente parce que tu vois que ce qui a marché 5 minutes ne marche plus
Ouais, je alors pour moi il n'y a pas de recette magique, il y a des fondamentaux à respecter. Il ne peut pas y avoir de recette magique, il ne peut rien avoir de systémique parce qu'on est vraiment, et peut-être encore plus que dans le management d'entreprise, dans de la relation très individualisée. Parce que là, chaque membre va donner ce qu'il veut donner au moment où il veut le donner. Et ça, je ne suis personne pour l'imposer. Je peux rappeler à quelqu'un qui a pris un engagement de dire « Tiens, je vais bosser sur ce sujet », de lui dire « Au fait, tu nous avais dit qu'on ferait ça, dans tel timing, etc. On en est où? Comment t'avances? Est-ce que tu as besoin d'un coup de main ?» Ce genre de choses. Là, c'est assez classique, on va dire, dans le management. Dans la notion de leadership et de fédération de ce collectif-là, il y a deux choses. Il faut qu'il y ait des choses concrètes à faire. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait un maximum de choses qui soient quand même un minimum formalisées pour pas que ça ne reste dans la tête d'un chef de projet, d'un responsable de pôle, d'une personne clé, en fait. Puisque je te disais que c'est un peu une utopie d'imaginer que personne n'est indispensable. Oui, c'est une utopie parce que je te parlais d'Isa. Si Isa demain elle arrête EDA, on va être très clair, on est dans la merde dans le bureau. Voilà. Parce que c'est aussi elle qui s'occupe de la com, etc. Par contre, c'est de se dire, bah tiens, à un moment, il faut préserver ceux qui s'engagent beaucoup parce qu'ils peuvent se faire déborder et un peu submerger. Et il faut trouver des choses qui font que les gens qui viennent, ils ont des compétences, ils ont des parcours personnels, professionnels, qui font qu'on va pouvoir utiliser leurs compétences. Alors, quand j'envoie en mission sur un projet, tiens, d'ailleurs, je viens de dire j'envoie, ce qui n'est pas très classe, mais quand l'asso envoie en mission une infirmière urgentiste pour aller former des équipes d'urgence sur de la prise de constante, c'est facile de faire l'alignement compétences savoir-faire. Mais quand j'ai besoin de quelqu'un pour faire la clôture comptable, là on est en plein dedans, où nous on a un commissaire aux comptes, etc., puisqu'on a un devoir de transparence financière, hein, et on a une obligation légale, vu le niveau de reçus de dons fiscaux qu'on émet, là il faut trouver des gens qui acceptent d'aller faire de la compta, qui ont les compétences, qu'ils soient reconnus pour ça, que ça pérennise leur gars, et donc... Il y a ce premier niveau, c'est le fait de faire. Nous, on est une ONG, il y a une des valeurs fortes, c'est l'action. On est des gens, on est des faiseurs. L'autre chose, pour que ça dure un peu plus longtemps, c'est de partager le pouvoir de décision. C'est de se dire, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi, président, ou le bureau, ou même le CA, qui puisse avoir des idées de choses qu'on peut faire pour faire avancer l'assaut. Et donc, l'idée, c'est aussi d'offrir une organisation, une culture en fait, d'organisation, qui dit « Ok, toutes les idées peuvent être mises sur la table. » Après, il y a quand même une forme d'obligation, dans le sens où si quelqu'un vient me dire « Tiens, j'aimerais qu'on parle de ça », va falloir juste le détailler un peu, le formaliser. Moi, j'essaye de faire formaliser beaucoup par écrit pour que ce soit transmissible collectivement. Parce que sinon, si on a juste des discussions de café du commerce ou en point à point avec 8 personnes qui ont parlé deux par deux ensemble, ça devient un espèce de marasme juste ingérable. Donc, il y a besoin de processer un petit peu un certain nombre de choses. Sans devenir pesant comme une grosse entreprise, une administration dans la notion de process. Mais vraiment, pour moi, la clé de la pérennisation d'un membre dans une association, c'est le connaître. Donc, c'est-à-dire qu'il faut l'accueillir, trouver des choses à faire, l'impliquer dans la décision.
Oui, parce que le fait que tu prennes le temps de le connaître et de lui mettre en face de ses compétences, ses actions, qui lui va pouvoir se sentir utile et valorisé, en fait, je pense que c'est là où ça joue sur les mêmes ressorts qu'on peut avoir dans une entreprise, hein. Enfin, il faut que l'individu se sente à sa place, se sente utile, se sente agir et que ça corresponde exactement à ce qu'il aime et ce qu'il sait faire, en fait. Donc, c'est là où tu arrives à trouver la bonne recette, on va dire, de l'engagement sur la durée.
Exactement. Et la différence avec le monde de l'entreprise, c'est qu'il faut accorder beaucoup plus d'importance à ce qu'il aime. Tu vois, quand tu embauches quelqu'un dans ta boîte, tu embauches des compétences, des savoir-faire, et dans la compétence, il y a le savoir-être aussi. Est-ce que ça va matcher avec la culture qu'on veut avoir dans l'entreprise? Toi, je sais que dans ton agence, il y a une culture forte marquée, donc ça, j'imagine que ça fait partie de la grille de recrutement. Mais quelque part, quelqu'un qui dit « moi, j'aime participer, j'aime faire des choses très personnelles », cool, merci, bisous, mais ce n'est pas forcément ce que je vais mettre en œuvre dans l'entreprise. Moi, dans l'asso, c'est quelque chose sur lequel c'est presque plus sur ça que je vais m'appuyer. Tu sais faire de la compta, cool, mais pas forcément que ça. Et tu as des appétences, tu as des envies. Les gens, on a tous des envies. Et quand on va s'engager dans l'association, il faut passer du temps avec chaque membre. Et là, ce n'est pas forcément mon rôle. C'est le rôle des équipes, l'ensemble des membres de l'association, pour dire, tiens, lui, il aime ça, elle aime ça, etc. Et alors, je ne vais pas te dépeindre une organisation chez EDA qui est parfaite. Des gens, on en perd parce qu'on a raté des trucs. Voilà. Après, je trouve que dans notre asso, on sait en parler entre nous. Là, récemment, il y a quelqu'un qui s'est engagé dans la partie comptable, etc., qui est parti, mais sans qu'on le voit.
Il y a eu un désengagement, tu veux dire?
Et oui, en fait, c'est quelqu'un qu'on n'a visiblement pas su mobiliser de la bonne façon. Et donc, en fait, à un moment, on s'est retourné, on se dit, mais elle est où? Elle n'est pas là.
C'est ce que tu disais, c'est quelque chose qui est partagé, j'aime pas le mot surveillance, donc j'en cherche un autre, mais le fait de s'assurer que les membres restent mobilisés, c'est un rôle partagé entre plusieurs personnes du bureau, entre plusieurs membres du CA.
L'ensemble du bureau est conscient de ça. Donc les responsables de pôle, et moi je sais que j'ai des discussions avec des membres du bureau, du CA régulièrement, qui me disent j'ai un sujet avec machin, avec machine, je ne vais pas me permettre de donner de nom, ce ne serait pas très classe. Je sens qu'on est en train de la perdre, je sens qu'il a envie d'autre chose, ses envies ont changé. Et moi, je suis ravi qu'on me sollicite pour ça, pour qu'on en discute, et pour qu'on essaye de trouver une clé. Voilà. Et le seul rôle qui fait de moi un dirigeant en tant que président, c'est que je me suis déjà entendu dire plusieurs fois, à des personnes, est-ce que tu veux que je l'appelle? Est-ce que tu veux que je montre que, en tant que président, sa présence au sein de l'association est importante, qu'on a envie que la personne s'y épanouisse, etc.
Oui, parce que tu parlais de toi, de ta vision du management collaboratif, mais je me dis que dans vos bénévoles, il y a forcément des gens qui n'ont pas connu ça en entreprise et qui peuvent être peut-être déstabilisés par... on va dire, autant de liberté, autant de prise en considération de leur opinion, de tout ça, en fait.
Alors, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Moi, je travaille, on va dire, 80% de l'activité de l'ONG, c'est le pôle santé. Si tu connais un peu, notamment, nous, du coup, on travaille beaucoup en hôpitaux. Donc, on a beaucoup d'anciens personnels hospitaliers. Et notamment des jeunes retraités, voire pas que des jeunes retraités. J'ai quand même une membre qui part 3 fois par an, qui a 79 ans, hein. Le monde hospitalier, le management horizontal, collectif, tout ça, dans le monde médical, comment te dire, c'est pas ouf. Tu sais, t'as les professeurs, t'as les docteurs, t'as les spécialités entre eux déjà, où ça se tire la bourre, si tu es sur le cerveau ou le cœur, tu es quand même quelqu'un de plus important que si tu es quelqu'un sur les intestins. Hein, tu as les infirmiers, tu as les aides-soignantes, tu as les sages-femmes. Et en fait, ça, j'ai découvert un monde, ce sont les castes à l'indienne, où il y en a qui sont... combien de fois j'ai entendu des gens qui me disent « Non mais ça, Coven, je ne peux pas le dire, parce que moi, je suis qu'infirmière. » Et alors, au début, ça me rendait dingue. Et je disais « Mais non, on s'en fout, on y va, etc. » Sauf que là, en fait, c'est là qu'on peut faire le lien avec le monde professionnel, il y a de la conduite du changement à amener. Et il faut prendre le temps d'écouter ces gens-là. Et je ne vais pas envoyer une infirmière au casse-pipe se prendre la tête avec un professeur en cardiologie qui va l'envoyer paître parce que ça fait 50 ans qu'il fait ça. Et elle, je vais la mettre en souffrance et lui, je vais le mettre en incompréhension. Donc, ça ne marche pas. Donc, bah, il faut prendre ce temps-là pour arriver à le faire. Et il y a des moments où il faut incarner de la décision, alors que ce soit moi en tant que président, Denise, la vice-présidente, un membre du bureau, un responsable de pôle ou un chef de projet, disant oui, l'horizontalité, le fonctionnement en collectif, c'est un principe que je trouve absolument à défendre. Par contre, il y a des moments, il faut aussi fédérer en décidant. Parce que sinon, tu peux te retrouver, et particulièrement dans le monde associatif, tu as des comportements, des fois, peut-être plus qu'en entreprise, des gens qui ne vont pas oser décider. Et donc, il y a un moment, il faut dire, OK, on va faire comme Émilie a dit. Parce que sinon, on peut tourner en rond sans jamais, en fait, arrêter une position et dérouler.
Et c'est ça qui est le plus complexe à trouver comme équilibre, c'est d'avoir à la fois ce côté, bon, maintenant, il faut prendre une décision, tranchons, et avoir cette personne qui a la légitimité de trancher, tout en ayant pris en considération les avis et opinions de tout le monde, que chacun se sente en liberté, et je veux dire, dans un écosystème ou dans un environnement où il se sent libre de s'exprimer, en fait. Et tout ceci, on est d'accord, ça prend beaucoup de temps de s'occuper que tout le monde a bien dit, a bien donné son opinion, que chacun se sent bien investi. Donc, il y a des moments, je pense que chef d'entreprise ou président d'association, hein, je pense qu'à un moment donné, des personnes se disent, ça irait quand même vachement plus vite si je menais tout le monde avec un son de cloche, un petit peu comme dans le menu, enfin, dans le milieu hospitalier au final, que ce serait peut-être plus efficace, toi, ou comme dans l'armée, hein, parce que c'est un autre corps de métier où effectivement, il n'y a pas trop la place à l'opinion de chacun, on va dire. Est-ce que tu dis parfois que ce serait quand même plus simple si je prenais moins en considération tout ça? Ou est-ce que tu dis que ça fait partie de la richesse de l'expérience et qu'au final, c'est
alors, tellement c'est l'avantage important d'être en monde associatif. C'est que moi, j'ai toujours dans ma tête, pour mon perso, pour mon pro, une espèce de matrice comme ça, là, où sur l'axe vertical, j'ai le niveau d'importance et sur l'axe horizontal, le niveau d'urgence. Il y a plein de choses importantes à faire quand on est une ONG comme la nôtre. Il y a parfois des urgences. Quand trois jours avant le départ, j'ai quatre coopérants qui sont censés partir qui n'ont pas leur visa délivré par le ministère des Affaires étrangères guinéen, il y a une urgence à agir. Et donc là, si moi, il faut que je prenne le téléphone pour appeler un interlocuteur là-bas, je ne vais pas dire à mon CA, est-ce que vous êtes d'accord pour que j'appelle le mec? D'accord. On ne va pas demander l'autorisation de pisser. Et les urgences évidentes, on les traite comme telles. Par contre, quand tout est urgence, il n'y a plus rien d'urgent, et donc ça ne va pas. Et donc, il faut accepter le fait qu'il y a des choses qui vont prendre plus de temps. Et bien sûr qu'il y a des fois, il y a des frustrations en disant « Non, mais là, on tourne en rond depuis une demi-heure dans une discussion. On veut tous aller au même endroit. Il n'y a juste personne qui va oser le dire. » Alors, des fois, je le dis. Hein, des fois, je me laisse un peu emporter. Hein, je ne vais pas du tout prétendre être parfait là-dessus. Je suis sûr que si tu demandes à des gens de mon CA, ils vont dire « Non, mais Coven, il incarne tout, machin, voilà. » ça arrive, hein. Mais c'est le moment de sortir ce bon vieux poncif, mais qui marche vachement bien. C'est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.
Ce qui est vrai, hein. De toute façon, il n'y a pas de...
Sur la temporalité, c'est une phrase qu'on nous dit souvent en Guinée quand on part sur nos missions, où nos partenaires guinéens avec qui on bosse donc, au quotidien, ils nous disent, mais donc moi je suis le gros blanc là-bas. Donc, toi, le gros blanc, t'as la montre, mais moi, j'ai le temps. Et c'est bien de se rappeler ces choses-là, tu vois. Et j'aime bien ces petits proverbes que tu gardes en tête et qui, des fois, font dire « Attends, là, faut pas que je réagisse. » Et c'est aussi l'intérêt d'avoir une gouvernance collective. Là, le fait déjà d'être à deux vice-présidents et présidents, quand il y a des moments, il y a des choses qui peuvent m'agacer, qui peuvent, enfin voilà, des émotions, je ressens aussi, hein, des frustrations aussi, bien évidemment. Et de pouvoir dire, attends, je vais appeler Denise. Peut-être qu'avec elle, je peux lâcher les chevaux, dire, ah là, mais à la fin, on arrive à une décision de se dire, attends, là, on va laisser faire, là, on va réagir, et vice-versa. Elle peut faire la même chose avec moi.
Et tu as toujours été dans cette vision du management collaboratif, ou si tu remontes quelques années en arrière, parce qu'en tout cas, pour moi, me concernant, moi, si je remonte il y a 10 ans en arrière, je n'étais pas du tout dans le collaboratif. J'étais très, très manager à l'ancienne, et il a fallu beaucoup de temps et beaucoup de changements pour réussir à prendre conscience qu'il y avait une meilleure façon de diriger une entreprise. Du coup, toi, dans ton passé, même si on n'est pas si vieux, hein, voilà, comment ça se passe, enfin, comment tu manageais avant, en fait ? Est-ce que...
Non, avant, moi, j'ai été dans des grosses boîtes de software américain, et le management, c'est le chef-y-chef, d'accord ? J'ai toujours eu des bonnes relations avec mes managers, j'ai toujours eu des bonnes relations au sein des équipes dans lesquelles j'étais, mais il y a un moment, il y a une décision qui est prise par le chef, et c'est comme ça, et on applique. Je me souviens que quand j'ai démarré ma carrière chez Oracle, un jour, j'ai un collègue qui m'a dit, de toute manière, il n'y a qu'une seule règle dans nos boîtes, c'est se soumettre ou se démettre.
Quand même.
Et je trouvais ça pertinent.
Oui. Bah, sûrement, peut-être que, enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a des personnes qui sont OK avec ce type d'organisation, qui se sentent même plus à l'aise que dans un espace où, justement, ce n'est pas le cas.
Alors, oui, là où j'ai fait évoluer ma position, j'ai écouté un épisode d'un patron d'une boîte à Toulouse, Mehdi Berada, qui est un énorme défenseur de cette notion d'entreprise libérée, et qui l'a mis en place dans deux structures, notamment dans sa boîte actuelle, Agronutrice. Et il a fait un épisode de 2 heures sur Génération Do It Yourself. Où il dit quelque chose que qui m'a marqué. Il dit, c'est pas une question de personne, c'est une question de comment on les forme. Cette vision-là, si on veut la porter dans une association, dans une entreprise, il faut qu'on doit pouvoir embarquer tout le monde. Parce que si on se dit, il y a des gens qui sont pas faits pour ça, on est déjà exclusif, et donc on est déjà dans de la décision autoritaire. Et quand j'ai écouté ce podcast, donc il y a 2h30, je l'ai écouté plusieurs fois pour m'en imprégner, et là tu dis, OK, là il y a un truc qu'il faut creuser. Et donc, oui, moi j'ai fait évoluer, alors je pense que, à la différence de l'époque où j'étais salarié en entreprise, le fait d'être consultant aujourd'hui fait que je vois une diversité d'entreprises, de dirigeants, avec des parcours, des histoires de vie différentes, etc., des ambitions différentes, qui fait que ça ouvre un peu les chakras, parce que je vois plein de contextes différents, en fait. Quand tu es dans une boîte, en fait, tu vois ton contexte au quotidien, 40 heures par semaine, terminado.
On ne se rend pas compte, en fait, de la pluralité d'organisations, que ce soit d'associations ou d'entreprises, et comme de la pluralité de management. Enfin, moi, c'est pour la même raison. Quand j'avais mon agence, au tout début, quand on a pris des bureaux, parce que tout le monde prenait des bureaux, on avait un open space, comme tout le monde avait un open space, et j'étais là de 8h du matin à 20h pour m'assurer que tout le monde commence bientôt et finisse bien tard, parce que c'est comme ça que ça marche dans les boîtes. Et qu'il m'a fallu effectivement sortir de ça, assister à des conférences, voir comment ça se passe ailleurs, et notamment dans la communauté WordPress, pour découvrir la notion de télétravail, la notion effectivement d'entreprise libérée, d'autres notions auxquelles on n'est pas du tout confronté, puisque que ce soit dans les médias, il y a très très peu de chefs d'entreprise qui partagent et qui montrent effectivement ces alternatives-là. Il y a de plus en plus de livres, hein, bien sûr, mais on est peu exposé quand même à ça. J'ai rencontré une femme dernièrement qui enseigne ça à l'école, le management collaboratif, l'holocratie, l'entreprise libérée. Je me suis dit, mais c'est génial, on a fait un bond en avant là, en fait. On va enfin montrer aux étudiants qu'il y a dans le monde de l'entreprise plein d'alternatives.
Mais alors pour moi, avant d'arriver sur l'holocratie, sur les modèles d'organisation, il y a ces notions de compétences et notamment de savoir-être individuel. Et pareil, là, je reprends ce que dit Mehdi. Il dit il y a deux piliers à avoir, c'est l'intelligence collective et la communication non violente. Et la communication non violente, pour moi, je pense que c'est important parce qu'il ne faut pas confondre le fait de décider collectivement et le fait de ne pas oser se dire et ne pas oser confronter des points de vue différents. Parce que ça peut être ça, la limite. À un moment, je n'ose pas dire parce que je ne veux pas passer pour le méchant. Et moi, dans l'asso, je le vis régulièrement. Il y a des gens où je sais qu'ils ne me disent pas, ils ne disent pas au collectif, quand on est en réunion de CA, quand on est dans des réunions de pôle, des choses comme ça, parce qu'on ne veut pas passer pour la personne agressive, la personne pas sympa, la personne... voilà. Et encore plus dans ce monde associatif, pardon, où il y a un affect beaucoup plus fort. D'accord ? Et, mais par contre, on a besoin de confronter les points de vue. Et alors, ce n'est pas facile pour moi, parce qu'on vit dans un monde où la notion de consensus, et on lise beaucoup les choses, et à un moment, exprimer une voix discordante, ça peut être mal vu. Sauf que si c'est fait, si je te dis, non mais Émilie, ce que tu dis, c'est nul, ça ne sert à rien, laisse-moi tranquille, là, j'amène rien à la conversation. Si par contre, on est capable de se dire, Émilie, je ne suis pas d'accord avec toi, et j'aimerais qu'on en discute. Moi, voilà ce qui m'amène à penser autrement, mais j'ai envie d'écouter un peu plus en détail ce qui t'amène à ton point de vue. À un moment, le consensus, il peut se trouver. Ou à un moment, on peut se dire, on n'est pas d'accord, et c'est là l'avantage après d'avoir un collectif, l'avantage d'avoir un collectif. C'est, moi, des fois, je me dis ça quand dans des réunions de CA, quand il y a des gens qui disent, il faut qu'on fasse ça en tant qu'association. Et je dis, attention, ça, c'est un point de vue individuel. On est un CA, on est 29, ben on va le voter. Et le collectif doit pouvoir s'exprimer librement. Et aujourd'hui, encore une fois, chez EDH, c'est qu'on n'est pas parfait là-dessus. C'est un chemin, je pense que c'est un chemin qui ne s'arrête jamais, en vrai. Mais c'est une attention qu'il faut avoir un peu constante.
Et tout à l'heure, tu parlais justement du fait que chacun a la parole et chacun doit exprimer ses idées et que ça passait beaucoup par l'écrit. Donc, la culture de la documentation est pas forcément évidente. Je me doute que dans l'associatif, avec des bénévoles, peut-être que c'est encore moins évident à mettre en place. Comment tu les accompagnes sur ce sujet-là ? Est-ce que vous avez des outils qui sont assez simples de prise en main pour que chacun puisse facilement... mettre les informations, comment ça se passe ?
Pas bien. Non, et je ne suis pas irréprochable non plus. Je pense que c'est hyper important d'être capable de transmettre et donc d'avoir des traces écrites, de pouvoir travailler collectivement là-dessus. Honnêtement, on n'est pas bon là-dessus. Et moi, le premier, hein, je ne vais pas du tout mettre ça sur la faute des autres. Non, j'ai... Alors, quand quelqu'un part en mission, on fait des rapports de mission écrits... on a les obligations légales, toutes nos réunions de bureau, nos réunions de conseil d'administration sont documentées, rapports envoyés aux membres, etc. Mais c'est de la communication très formelle. Aujourd'hui, la remontée d'infos, le partage collectif par écrit, on utilise beaucoup le mail encore. On n'est pas dans la culture des messageries, etc. Après, il y a... Ça pourrait paraître un sujet à part entière, parce que l'injonction de devoir répondre sur ton Slack, etc., ou ne serait-ce qu'à ton téléphone, si on fonctionne en groupe WhatsApp, on a des choses un peu plus informelles. Non, c'est un sujet. Enfin, si d'ailleurs il y a quelqu'un qui écoute à un moment ce podcast et qui a une clé intéressante sur comment on fédère les gens pour avoir de l'information qui est transmissible facilement, je suis carrément preneur.
Ah, puis c'est vraiment une douleur que je partage, Cohen, parce que encore nous, enfin, on est une entreprise 100% à distance, donc la culture de l'écrit fait partie de nos valeurs et fait partie vraiment de notre ADN. Et en dépit de ça, c'est compliqué parce que c'est naturel pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Et il y a effectivement le fait de mettre par écrit des process, de mettre par écrit ses idées, et après il y a le process de faire lire aux gens aussi, parce que tout le monde n'a pas aussi la culture de la lecture. Et de prendre le temps de lire tout ce qui a été écrit, ils vont même voir ça comme un surplus de charge mentale en disant voilà, il faut que je fasse mon taf, il faut qu'en plus que je documente et en plus que je lise tout ce que un tel a écrit. Ça fait beaucoup de choses en fait. Donc, j'ai pas non plus la recette miracle, j'y travaille. Mais effectivement, et puis pour le côté, il se passe quoi que ce soit, quelqu'un se casse la jambe, n'est plus disponible, au moins on a l'information quelque part.
Alors, sur la lecture, ça, je ne l'ai pas mis en place chez EDA, mais il y a un truc que j'ai vécu, c'était chez Amazon, quand j'ai bossé chez Amazon, qui était vachement bien, c'est sur la conduite de réunion, où en fait, la personne qui sollicite une réunion, elle devait faire une note de synthèse de l'objet de la réunion, donc il y a un vrai ordre du jour qui doit être fait, documenter les prérequis de connaissance de qu'est-ce qu'il faut savoir pour entrer dans la réunion, et que la réunion puisse être efficace. C'est envoyé une semaine avant la réunion, quelques jours avant la réunion. Cette note de synthèse, elle ne devait pas faire plus de 2 ou 3 pages, si je me souviens bien, et en caractère 9 minimum, pour pas qu'il y ait un mec qui triche qui écrive en 4. Parce
que c'est... voilà.
Et quoi qu'il arrive, le début de la réunion, les 10 premières minutes, c'était « on relit tous ce document ». Et après, on commence la réunion. Parce qu'on sait très bien que tu envoies des choses à l'avance, etc. Et tu as des gens qui arrivent en réunion et tu le vois à leur tête quand tu commences à dire. Et là, comme je l'ai marqué, page 3, il y a ce sujet-là qui est vraiment important qu'on aborde. Et là, les gens ne savent pas de quoi tu parles. Donc, quand tu prends 10 minutes en début de réunion pour dire « ok, on se met tous à jour, on lit ce doc que j'ai fait l'effort de faire », et c'était une clé qui marchait, c'était plutôt efficace, ça. Mais par contre, le fait de faire générer ces écrits-là,
c'est là, très compliqué. Ouais. Bah, de toute façon, la tenue de réunion efficace, organisée, documentée, est un sujet mondialement problématique.
Ah oui, oui, oui.
Quelle que soit la structure, que ce soit l'associatif ou l'entreprise, je pense que c'est effectivement des gros points.
On est d'accord.
Quel serait pour toi, si quelqu'un écoute ce podcast et se dit « Ok, je vois bien qu'aujourd'hui, je centralise trop les informations, je centralise trop, entre guillemets, le pouvoir, j'ai du mal à déléguer, j'ai du mal, effectivement, à confier des responsabilités ou des décisions à d'autres personnes. Par quoi tu te conseillerais de commencer ? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu te dis bah, « Commence par ça, c'est le plus facile. »
Je pense qu'il faut trouver des gens avec qui confronter cette vision-là, qui peuvent être en interne en entreprise ou qui peuvent être externes. Moi, je sais que dans mes prestats de coaching, il y a beaucoup de ça, en fait. C'est des dirigeants, la notion de la solitude du dirigeant, c'est un concept qui est tout sauf anodin. Et il faut trouver des gens avec qui en parler. Ça peut être des pairs aussi. C'est-à-dire, ben, tiens, c'est pas pour rien que... Il y a plein de clubs, d'associations, de dirigeants de boîtes, il y a plein de clubs de directeurs des achats, de directeurs commerciaux, etc. C'est parce que c'est bien de se confronter avec ses pairs, ou de trouver des gens en interne avec qui on peut avoir cette discussion. Alors, en tant que dirigeant, c'est pas toujours facile, parce que alors c'est plus facile quand on a des associés, mais avec des salariés, on a quand même ce lien de subordination, donc partager ce truc en se disant « ouais, j'ai l'impression que je suis trop en contrôle, que je lâche pas assez la bride », compliqué à dire à un salarié. Moi, c'est pour ça que je suis très content, par exemple, chez EDA, d'avoir une vice-présidente avec qui on est d'égal à égal, que je suis très content chez IKEA d'avoir un associé où on est à 50-50, parce que ça permet de générer des discussions naturellement, en fait, de ne pas être seul face à soi-même sur ce genre de sujet, quoi.
Très bien. Merci. Je pense qu'effectivement... Enfin, c'est important d'aller voir et d'écouter d'autres histoires. Enfin, en tout cas, de confronter ces idées. Je suis la première à faire la même chose. Et effectivement, on a besoin de lecture, c'est bien, mais on a surtout besoin de discuter et de confronter ces idées. Et je te rejoins sur le fait que c'est pas évident de dire à son équipe, et je connais beaucoup d'entrepreneurs, enfin de dirigeants qui ont commis cette erreur-là, en disant « voilà, j'annonce à tout le monde que maintenant, mon entreprise va être plus libérée, je vous dis maintenant, tout va changer ». Et en fait, ça s'est vite terminé parce que ça, c'est pas parce qu'on le décide que tout évolue et tout change. Et en plus, ça prend du temps. Et c'est vraiment, un parcours qui prend presque toute sa vie. Enfin, moi, ça fait des années que je libère l'entreprise, que je libère mon agence. Et tous les jours, je me dis encore là-dessus, j'ai encore une vision élitiste, j'ai encore une vision où je garde les sujets, je garde le pouvoir et j'ai pas vraiment tout libéré, en fait. Enfin, ça prend du temps.
Je comprends et je partage. Moi, je suis pareil chez EDA. Il y a des choses où je te dis, je vais pas te dépeindre un tableau idyllique de ouais, on est parfaitement horizontalisé, tout le monde est responsabilisé, machin. Non, il y a des moments où certainement je reste peut-être autoritaire en tant que dirigeant. Après, j'essaye d'en avoir conscience au moins. Je me dis que le premier pas, c'est de conscientiser le comportement et de se dire, bah tiens, la prochaine fois, comment je peux faire différemment.
Merci Kovan. Si des auditeurs veulent te poser des questions, rentrer en contact avec toi pour en savoir plus, que ce soit sur ton travail de consultant ou sur les enfants de l'AIR, comment te contacter ? Est-ce que tu as un réseau préféré ?
Alors moi, je suis présent un peu partout. Je suis très LinkedIn, je suis très X-Twitter. L'avantage, c'est qu'avec Kovan, on me trouve assez facilement. Hein. Pensez à mettre le deuxième N, Kovan Lee, je n'ai pas mis mon nom de famille sur LY. Si vous tapez Kovan Lee, vous tombez aussi sur le site de ma boîte, il y a mon numéro de téléphone portable dans le footer, je suis joignable. Donc non, c'est pas très dur de me trouver.
Très bien. Et ben, de toute façon, je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode pour qu'on puisse te contacter. Bah, merci, Kovan, pour cet échange hyper intéressant, très instructif et surtout très inspirant. Je pense que ça va donner plein d'idées à plein d'éditeurs. Donc, merci beaucoup.
Avec plaisir et à très bientôt.